Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous passiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. »
J'ai des Bibles à disposition, si certains sont là, n'hésitez pas. Merci. Vous savez donc, nous entrons dans la semaine sainte, selon le calendrier liturgique. Alors cette semaine est extrêmement importante pour les croyants du monde. Cela a été rappelé, alors pourquoi ? Alors, en lisant les évangiles, on voit que cette semaine qui précède la mort de Jésus est très importante pour leurs auteurs, puisque la dernière semaine de la vie de Jésus occupe finalement une part que nous pourrions juger un peu disproportionnée dans chacun de ses évangiles. Triste, Jésus a vécu 33 ans, et pourtant c'est sur les derniers jours de sa vie, sur ce temps donc qui précède immédiatement sa mort, que les évangélistes vont mettre l'accent. Alors, en simplifiant les choses, le quart de l'évangile de Matthieu et de Luc est consacré aux derniers jours de Jésus. Le tiers de l'évangile de Marc, et puis pratiquement la moitié de l'évangile de Jean. Pour les évangélistes, il est clair que les derniers jours, les dernières heures de la vie de Jésus sont capitales. Elles seront finalement la raison même de sa venue parmi nous, de son incarnation. Alors relisons le verset 1 que Anissa vient de lire. Avant donc la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Jésus sachant que son heure était venue. Alors j'aimerais vous montrer une image. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de montrer une représentation de Jésus. J'aime pas tellement le faire, mais enfin là, il y a vraiment un intérêt concernant ce tableau. Alors on aime ou on n'aime pas, là n'est pas vraiment le problème. Alors c'est un tableau qui est intitulé « L'ombre de la mort », qui a été donc peint par un certain Holman Hunt, un Anglais du 19e siècle. Alors on voit ici une représentation de Jésus très, très occidental. Jésus, bon, il est beau, il a les cheveux longs, il est même assez, assez musclé. Donc c'est une représentation, soyons clairs, qui ne cadre pas du tout avec la description que fait la Bible du serviteur souffrant. On s'en souvient, il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Donc, soyons clairs, ce tableau est le fruit de la pure imagination de l'auteur, du peintre. Mais, et c'est en cela qu'il est intéressant, il exprime une vérité théologique profonde. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que la croix formée par l'ombre de Jésus et par leur râtelier à outils, eh bien, est déjà présente, bien avant le dernier repas de la Pâque. Alors, on ne voit pas très bien, il y a un marteau et des clous. Le marteau, donc, et les clous préfigurent la façon dont va mourir Jésus. Jésus est jeune, on le voit, là, il est dans son atelier de charpentier, donc la scène se passe bien avant son ministère public. Et pourtant, l'ombre de la mort est déjà bien présente. Plus encore, donc il y a une femme, là en bas, dans le coffre que la femme ouvre, on pensait donc que c'est Marie, sa maman, dans le coffre que la femme ouvre, on peut y voir les cadeaux que les mages ont offert à Jésus à sa naissance. La mort donc, et la mort à la croix, s'est profilée devant Jésus dès sa naissance. Et c'est ça, cette vérité théologique profonde qui exprime le tableau de Holman Hunt. Sa mort, la mort de Jésus, est au centre de sa mission. On peut dire même que sa mort, la mort de Jésus, est sa mission. Donc on le voit, la croix revêt une importance capitale. Les évangélistes ne s'y sont pas trompés. Eux qui ont accordé une place que nous pourrions juger disproportionnée, en réalité ont accordé à la passion, ce qu'on appelle la passion du Christ, sa juste place. Alors la question que je nous pose ce matin, c'est de savoir ce que la croix représente pour nous. Quelle est pour moi l'importance de la croix? On le voit pour les rédacteurs des évangiles, pour Jésus, cette importance était capitale. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour moi? Alors, le texte médité ce matin ne parle pas de façon directe de la crucifixion de Christ. L'auteur, par ce qu'il écrit, par ce qu'il rapporte des propos de Jésus, n'y fait qu'allusion. Mais, la mort de Jésus, dans ce passage, est déjà bien présente. Verset 1. Jésus, sachant que son œuvre, que sa mort était venue. Elle va arriver dans quelques heures, seulement après l'épisode du lavement des pieds. Alors, je vous propose de méditer ce texte en trois temps. Donc trois temps, nous verrons d'abord en quoi le lavement des pieds que Jésus pratique sur ses disciples est tout à la fois un geste purificateur à accepter, un exemple d'amour à suivre, et enfin un appel solennel à prendre au sérieux. Un geste purificateur à accepter, un exemple d'amour à suivre, et enfin un appel solennel à prendre au sérieux. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, il est nécessaire de resituer le passage. Nous sommes là quelques jours après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cela a été évoqué par Trévor. Jésus donc a été accueilli à Jérusalem pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Il est le roi. Il est le Messie. Jésus a été accueilli à Jérusalem pour ce qu'il est, même si, nous savons, cette foule ne comprenait pas toute la portée, toute la signification de ce qu'elle proclamait elle-même. Ensuite, l'évangéliste prend soin d'encadrer cet événement, le lavement des pieds. Il prend soin d'encadrer finalement l'abaissement de Jésus par trois affirmations qui insistent, elles, sur sa souveraineté. Au verset 3, vous pouvez relire avec moi. Jean prend soin de rappeler que Jésus, en parfaite harmonie avec son Père, a reçu toute autorité. Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains. Au verset 13 ensuite, Jésus s'affirme comme le Seigneur et le Maître. dites à ses disciples, voilà, vous dites que je suis le Seigneur, répète, mais vous avez raison, je le suis. Enfin, au verset 19, tout à la fin du passage, un peu après le passage que nous venons de lire, Jésus affirme qu'il est Dieu. Alors, je lis ce verset que nous n'avons pas pu lire ensemble. « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Je suis. Il est. » Jésus se révèle ici à ses disciples de la même façon que l'Éternel avait fait dans l'histoire avant, avec Moïse. Jésus affirme par cette déclaration sa pleine divinité. Il est Dieu. Et à ce titre, il est souverain. Jésus est le Messie. Il est le Roi. Il est Dieu le Fils. Et il a toute autorité sur les choses. Cet abaissement, ce lavement des pieds, donc qui préfigure, qui annonce un abaissement bien plus absolu, n'est pas imposé à Jésus. Cet abaissement est au contraire le résultat de sa volonté. Cet abaissement n'a été possible que parce que Jésus l'a accepté. Plus encore, il l'a voulu. Il l'a décidé. La crucifixion à venir n'est pas un accident. Jésus aurait échoué, aurait été mis à mort contre sa volonté. Non, la mort de Jésus fait partie du plan de Dieu. Jésus à qui le Père a tout remis, est maître de toutes choses, à commencer par sa vie. On ne lui ôte pas, il va la donner. Alors après, c'est quelques remarques qui nous montrent l'autorité de Jésus lui-même sur son adversaire. Jésus a autorité, pleine autorité sur son adversaire. Je vous propose de nous arrêter donc sur notre premier point, un geste purificateur à accepter. Alors entre Dieu et les hommes, existe un problème. Un problème apparemment insoluble, celui du mal. À la chute, l'homme s'est révolté contre son Créateur, il l'a méprisé, il l'a bafoué. Il a sombré dans le mal. Le constat que nous devons faire, c'est que l'homme est marqué par le péché, mais profondément moi-même. Ce que nous observons autour de nous ne peut que nous conforter dans cette vérité. Ce que nous observons peut-être aussi en nous, avec un peu de lucidité, ne peut que nous conforter dans cette vérité. Égoïsme, jalousie, haine de l'autre, intérêt très personnel, cette tendance récurrente à tout ramener à nous, à tout ramener à notre propre satisfaction. Et tout ce qui en découle, on le voit, il suffit d'allumer la télévision, les journaux, injustice sociale, rupture, guerre, bonus, parachute doré, c'est très en vogue. La liste est longue. Donc d'un côté, l'homme, mais quand je dis l'homme, c'est nous, c'est moi. L'homme donc, d'un côté, et de l'autre, Dieu. Parfaitement beau, juste, trois fois saint. Combien de fois cela est dit dans la Bible ? Dieu trois fois saint. Ne pouvant tolérer et supporter le mal, comment donc parvenir à une réconciliation ? Comment parvenir ne serait-ce qu'à une cohabitation ? Alors Dieu, dans l'Ancien Testament, avait donné au peuple d'Israël le moyen d'entrer dans sa présence par un certain nombre de sacrifices, de cérémonies, par un certain nombre de rites extérieurs. Sans ces sacrifices, donc, le peuple d'Israël n'était pas pur et ne pouvait donc entrer dans la présence de Dieu. Les personnes n'étaient pas acceptées par Dieu. Alors le problème, c'est que tous ces rites extérieurs, tous ces sacrifices, avaient une portée très limitée dans le temps. Il fallait sans cesse les renouveler. Et puis, ils avaient également une portée très limitée quant à leur efficacité. Certains péchés, en effet, qui rendaient impurs, les péchés rendent impurs, ne pouvaient pas être purifiés tout simplement parce qu'aucun sacrifice n'était prévu pour eux. Donc ce système mis en place était au fond très insuffisant et très insatisfaisant pour régler le problème de la purification des hommes pécheurs et donc de leur réconciliation avec Dieu. Alors il était très insuffisant ce système sacrificiel, mais il avait quand même tout l'intérêt de préfigurer, d'annoncer la solution avec un S majuscule. Tout ce système sacrificiel indiquait déjà que la purification et donc la réconciliation avec Dieu ne passerait, ne pourrait se faire que par un sacrifice. Mais pas celui d'un animal. Alors la solution, quelle est la solution? Vous le voyez, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. La solution, c'est le sacrifice de Jésus. Verset 8, Jésus déclare à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » En lavant les pieds de ses disciples, Jésus accomplit un acte. Un acte qui annonce prophétiquement et symboliquement sa mort, par laquelle il va offrir la purification des péchés à tous ceux qui croient. En lavant les pieds des disciples, Jésus accomplit un acte qui annonce symboliquement sa mort, par laquelle il va offrir la purification des péchés. Jésus montre que c'est lui et lui seul qui va faire la purification des péchés. Jésus affirme par ces quelques mots qu'il est la solution. Cette purification, il va l'opérer par le sacrifice de sa vie à la croix. Jésus dit à Pierre que s'il ne le purifie pas, Pierre ne pourra jouir de la communion avec lui. Autrement dit, si Jésus le purifie, Pierre aura l'assurance d'être en communion avec son Seigneur et Maître. Jésus affirme ici que par cette purification qu'il offre, il réconcilie les hommes avec lui-même. Il les fait entrer dans sa communion et par là même dans la communion avec le Père, avec Dieu son Père qui devient alors notre Père. Il proclame que la communion avec lui et avec son Père est dépendante de la purification qu'il veut opérer en nous. Pas de purification, pas de communion. La purification est nécessaire, elle n'est pas accessoire pour être en communion avec Jésus. Elle est indispensable. Et seul Jésus peut nous la procurer. Alors acceptons-nous cette déclaration de Jésus et sa radicalité. Alors c'est notre acceptation. Le troisième point. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il faut sauver le soldat Ryan. Alors je vais vous en faire rapidement le résumé. Il y a Ryan parmi nous, mais c'est pas le soldat. Alors je vous en fais rapidement le résumé. L'action se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Très exactement quelques jours après le débarquement allié en Normandie. Alors il y a un groupe de soldats, on en voit quelques-uns, hein, un groupe d'hommes, ils sont une dizaine, qui reçoit la mission d'aller chercher un soldat parachutiste américain, donc c'est le soldat Ryan, il faut qu'ils aillent chercher ce soldat Ryan, derrière les lignes allemandes, en pleine bataille de Normandie, et de le ramener sain et sauf à sa famille. Alors en effet, la mère de ce soldat, la mère du soldat Ryan, elle a déjà perdu, alors je ne me souviens plus très bien, 2 ou 3 fils au combat. Et le gouvernement américain a décidé d'épargner le dernier fils et de le renvoyer dans ses foyers. Mais pour cela, il faut le récupérer. Alors je passe sur les détails, mais à l'arrivée, tous les soldats, vous voyez, il y a quelques-uns, tous les soldats, chargés de sauver le soldat Ryan, eh bien il meurt. Il meurt quelque part pour lui. Ils se sacrifient tous pour lui. Et l'un d'eux, dans une belle mort hollywoodienne, donc une mort hollywoodienne, c'est une mort qui vous permet de délivrer votre message avant d'expirer. Donc, dans une belle mort hollywoodienne, il va délivrer ce message très important. Dans une belle mort hollywoodienne, donc, il a le temps de dire à Ryan, mérite-le, mérite notre sacrifice. Nous sommes morts pour toi, à cause de toi, alors mérite-le, mérite notre mort. Alors, contrairement au soldat Ryan, qui doit mériter la mort de ses camarades, nous n'avons pas à mériter la mort de Jésus. Nous n'avons pas à mériter son abaissement. Nous avons à l'accepter. Chercher à le mériter, c'est faire fausse route. Nous ne serons jamais suffisamment dignes de mériter sa mort, de mériter son abaissement. Alors, est-ce facile? Relisons les versets 6 à 8. Il va donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas d'abord, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne laveras les pieds. Il semble bien que pour Pierre, cela ne semblait pas aller de soi. Alors pour quelle raison? L'auteur ne le dit pas, mais au fond, nous ne savons que trop. Le danger est double. Soit nous nous sentons trop indignes, trop mauvais, trop pécheurs, écrasés sous le poids de notre culpabilité. Et nous pensons que pour nous, Christ ne peut réaliser la purification des péchés. Nous sommes tombés trop bas, nous avons franchi le point de non-retour. C'est sûrement ici le cas de Pierre, il se sent profondément indigne devant son âme. Soit, et c'est un peu, d'une certaine façon, l'extrême inverse, nous estimons que la purification n'est pas aussi nécessaire que cela pour nous, que nous allons pouvoir, d'une façon ou d'une autre, trouver en nous, et non en Christ, les ressources pour accepter l'évangile. Alors nous avons raison de penser que nous sommes tombés bien bas. En réalité, d'ailleurs, nous sommes tombés bien plus bas que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais nous avons tort de croire que Christ ne peut opérer notre purification. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait ou omis de faire, Christ veut et peut nous purifier. Il en a l'autorité, il le déclare. Que ce soit l'une ou l'autre attitude, que nous nous croyons trop pécheurs, trop mauvais, ou finalement que nous ne croyons pas si mauvais que cela. Le problème de fond est le même, c'est celui de l'orgueil. Nous n'acceptons pas qu'un autre vienne nous sauver. Nous ne pouvons le supporter. La nature humaine marquée par la chute ne supporte pas d'être redevable. C'est un court moment la tentation de Pierre. Non, jamais tu me laveras, Seigneur. Et Jésus lui déclare, si je ne te lave, tu n'auras point de pain avec moi. Je dois reconnaître mon intimité et tout à la fois accepter la purification qu'il m'offre par sa mort. Alors ces quelques mots de Jésus ne s'adressent pas seulement à ceux qui n'ont pas encore accepté que Jésus fasse la purification de leur péché, à ceux qui n'ont pas encore accepté sa mort expiatoire. Ces mots s'adressent aussi à tous ceux, c'est une grande joie, nous sommes nombreux ce matin, à tous ceux qui, par sa grâce, ont accepté Jésus comme leur sauveur. En effet, Jésus poursuit sa conversation avec Pierre pour lui dire qu'il est pur. C'est ce qu'il déclare à Pierre au verset 10. Vous êtes pur, mais pas tous. Pierre a en effet placé sa confiance en Jésus pour résoudre son problème avec Dieu. Mais Jésus, toujours au verset 10, continue avec ses paroles un peu énigmatiques. Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Que veut dire Jésus? Il parle ici de notre besoin de venir et revenir continuellement à lui après nos chutes, après nos errances, pour vivre cette purification au quotidien qu'il nous offre. Autrement dit, cette purification se fait une fois pour toutes, au moment où nous l'acceptons par la foi, au moment où nous nous convertissons, comme on le dit parfois, mais ensuite nous avons à y revenir continuellement tout au long de notre vie. Nous qui avons cru par grâce et qui sommes donc sauvés, nous avons pour autant besoin de revenir à la croix. Nous avons besoin de nous souvenir toujours et encore pourquoi nous sommes purs aux yeux de Dieu malgré tous nos péchés. Nous avons besoin de nous souvenir que nous sommes au bénéfice de la purification des péchés opérée par Jésus. Nous devons fonder notre vie sur cette purification. Il n'est pas question de dire « Jésus m'a purifié, je suis sauvé, formidable, passons à autre chose !» Mais plutôt « Jésus m'a purifié, je suis sauvé, je n'ai plus rien à craindre à présent, et je demeure, je me tiens dans ce salut offert, j'en vis, ma vie est et restera fondée sur cette purification » à laquelle je ne cesse de revenir constamment avec reconnaissance. Que le Seigneur donc nous aide les uns et les autres à saisir cette purification offerte et à en vivre. Alors après avoir vu en quoi le lavement des pieds est un geste purificateur à accepter, je vous propose de passer à notre second point, un exemple d'amour à suivre. Si Jésus lave les pieds de ses disciples, ce n'est pas seulement pour annoncer sa mort expiatoire à venir. Annonce d'ailleurs que les disciples ne comprendront que bien après. À ce moment-là, les disciples n'ont pas dû comprendre grand-chose, pour ne pas dire rien du tout, quant à la portée prophétique du geste de Jésus. Donc si Jésus lave les pieds de ses disciples à ce moment-là, c'est d'abord pour leur laisser un exemple. Alors quel exemple ? Jésus, par son geste, veut laisser à ses disciples un exemple d'amour. Alors nous verrons tout d'abord sa condition, la condition d'un tel amour, son expression, pour finir ensuite par sa conséquence. Donc la condition, tout d'abord, d'un tel amour. Alors dans la Palestine de l'époque, on se déplaçait essentiellement en marchant. Les marchands sur les chemins, en sandales, eh bien, on se salissait rapidement les pieds. D'où la nécessité de les laver quand on arrivait à destination. Un peu comme on se lave les mains depuis le temps. Ce service était alors rendu non pas par l'hôte, mais par l'un de ses serviteurs, l'un de ses esclaves, et de préférence, semble-t-il, par un esclave même non-juif. Tellement ce service était considéré comme dégradant. Alors dans ce passage, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus prend la place du serviteur, de l'esclave pour accomplir un geste considéré comme méprisable en Israël. Jésus s'abaisse, il suit. Cela a été évoqué aussi à plusieurs reprises. Pas très bien. Il suit et laisse un exemple à suivre aux disciples. Lui, le Fils de Dieu, lave les pieds sales en repoussant de ses disciples. Quelle leçon! Il était dans la gloire avec le Père. Il s'est fait petit enfant, il a grandi dans une modeste famille et le voici tout à la fin de sa vie prendre la place de l'esclave. Jésus est le Seigneur et le Maître, et pourtant il accepte la position du plus humble. Y a-t-il place plus méprisable, plus humiliante ? Oui, celle du malfaiteur crucifié. Et Jésus prendra également cette place dans quelques heures. Alors nous savons par Luc au chapitre 22 qu'au cours de ce repas, on espère avant l'épisode du lavement des pieds, mais c'est pas. En tout cas, au cours de ce même repas, les disciples se sont disputés pour savoir qui était le plus grand. Quelle leçon d'humilité Jésus leur laisse ici. Mais pour nous également, Jésus nous rappelle ici que pour exercer l'amour envers notre prochain, l'humilité est la condition nécessaire. Nous avons à aimer l'autre et pour cela nous avons à considérer ses intérêts comme plus importants que nous. Difficile. Certainement impossible, pas si nous regardons justement à l'exemple de Christ, si nous appuyons sur cet exemple. C'est ce que Jésus dit à ses disciples dans les versets 13 à 17. Si nous comprenons quelle a été pour lui l'humiliation de laver les pieds de ses disciples, quelle a été pour lui l'humiliation d'être pendu au bois de la croix, pour nous, par amour pour nous, nous ne pouvons considérer les autres de haut. Nous ne pouvons que les estimer et considérer leur intérêt comme supérieur à nous. Nous ne pouvons que suivre le commandement que Jésus laisse à ses disciples. Que vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. Verset 15. Alors après avoir vu la condition d'un tel amour, à savoir l'humilité, arrêtons-nous à présent sur son expression. Comment cet amour s'exprime-t-il ? Alors quand on parle d'amour en Occident après le 19e siècle romantique, le risque est grand d'être mal compris. Il ne s'agit pas d'abord de sentiments, de ce que l'on peut ressentir pour tel ou tel. On le voit dans ce passage, l'évangéliste, Jean, lit, il fait le lien, c'est très important pour nous. Jean lit directement l'amour de Jésus pour ses disciples, au service qu'il leur rend en leur lavant les pieds. Verset 1, Jésus qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et Jean continue, Jésus se leva, prit un linge, versa de l'eau et commença à laver les pieds de ses disciples. Pour Jean, l'amour de Jésus est exemplaire en ce sens que c'est un amour qui sert. Voilà quelle est la véritable expression de l'amour, le service, un amour qui sert. Alors, il y a quelque temps, j'ai vu à la télévision Michael Jackson. Alors, Michael Jackson était un chanteur très célèbre. Alors, il a actuellement de gros problèmes financiers. Il a des dettes importantes. Et il est donc récemment apparu en public pour annoncer une prochaine tournée en Europe. Il va faire un certain nombre de concerts en Europe, notamment, je crois, en Angleterre. Bien évidemment, pour pouvoir payer ses dettes. Alors après sa déclaration, à la fin de sa déclaration, il a fini en adressant un « I love you ».« I love you ». Il l'a dit plusieurs fois. Il a dit « I love you » à son public. Mais quelles sont les preuves de son amour pour le public? Comment Michael Jackson va servir son public? Que va-t-il faire pour ce public sinon de lui faire payer le prix fort pour l'entrée de ses concerts? Michael Jackson ne recherche pas le bien de son public, mais son argent. Jésus, lui, nous a prouvé son amour en opérant la purification, le péché de sa mort expiatoire. Il ne nous a pas seulement dit « Je vous aime », il a prouvé. Il a apparemment pour nous sceller ce qu'il avait de plus précieux, ce que l'on peut avoir de plus précieux, sa vie. Alors, à l'exemple de Christ, cherchons à aimer d'abord nos frères et sœurs, mais au-delà, tous ceux que le Seigneur aura mis sur notre route, c'est-à-dire cherchons à servir l'Église, à servir nos frères et sœurs. N'attendons pas de ressentir, d'éprouver des sentiments pour aimer, pour servir. Mettons-nous tout de suite à l'ouvrage, mettons-nous tout de suite au service les uns des autres, prions les uns pour les autres, cherchons le bien des autres. Demandons-nous comment nous pouvons servir au mieux les autres. Notre sœur, notre frère, de l'écoute, de l'attention, des paroles réconfortantes, des paroles vraies, se dire la vérité dans l'amour. De l'argent, du temps, de la patience. Alors je sais que dans l'Église, la nôtre, l'Église universelle. Ben, il y a des frères et des sœurs qui n'éprouvent pas les uns pour les autres des sentiments débordants d'affection. En partie, il faut dire, parce que certains frères et certaines sœurs ne sont pas faciles. Certains peuvent même éprouver des sentiments d'agacement profond, d'aversion. Il ne faut pas nier ces réalités. Il est intéressant de voir que Jésus ici a lavé les pieds de tous ses disciples, y compris de Judas. Et en le servant, au moment où il lui lave les pieds, Jésus l'aime. Il le sert. J'ai envie, avec un peu de provocation, de dire qu'importe nos sentiments. Servons nos frères et sœurs, prions pour eux, cherchons leur bien. Et les sentiments d'affection viendront ensuite s'ils n'étaient pas présents au début de notre service. Alors l'idéal, bien sûr, l'idéal vers lequel il faut aspirer, c'est de servir sans contrainte, dans la joie, avec des sentiments d'affection fraternelle. C'est cela vers lequel il faut tendre. Mais, si ces sentiments ne viennent pas tout de suite, si peut-être ils viendront seulement dans la gloire, eh bien, malgré tout, continuons de servir nos frères et sœurs, même les plus difficiles, de prier pour eux, de chercher leur bien, de les aimer. Alors pourquoi? Pourquoi finalement se donner autant de mal? À quoi bon après? Eh bien, l'évangéliste Marc nous en donne la réponse tout à la fin du texte de ce matin, verset 17. Car nous sommes heureux. Nous sommes heureux. C'est la conséquence de l'amour. Nous sommes heureux. La conséquence de notre amour pour le service des autres, c'est que nous sommes heureux. Alors que faut-il entendre par là? Nous serions dans un état de contentement permanent en rendant service aux autres? Est-ce que Jésus, en lavant les pieds des disciples, était joyeux? Est-ce que Jésus, en mourant sur la croix pour nous, était plein de bonheur. Non, bien évidemment, ce moment, au contraire, a été pour lui le plus difficile, le plus angoissant. Souvenons-nous de l'épisode du jardin de Gethsémané, où Jésus déclare lui-même « Je suis triste à mourir ». Il n'est donc pas question ici de sentiments, une nouvelle fois, j'en ai dit, il n'est pas question de sentiments, de joie, de bonheur, d'exaltation. Il n'est pas question de sentiments, mais bien plutôt d'une sorte d'état, de situation, de presque de statut. Je m'explique. En servant, nous sommes heureux en ce sens que nous sommes dans la situation de celui qui est approuvé de Dieu. En servant, nous avons le statut de celui que Dieu approuve. Alors qu'espérer de mieux en nous voyant servir et Dieu nous approuver. Nous pourrions remplacer heureux par bénir. C'est un peu comme le heureux que l'on retrouve au début de chaque béatitude que nous étudions le mercredi soir. Souvenez-vous, hein, heureux celui qui se sait faible en esprit, heureux les affligés. Ainsi, la conséquence de notre service, c'est que nous sommes approuvés par Dieu. Ce qui ne peut que nous réjouir. Car notre pleine satisfaction, c'est de faire. Ça devrait être de faire la volonté de notre Père. Alors, après avoir vu le lavement des pieds des disciples comme un geste purificateur à accepter et un exemple d'amour à suivre, terminons avec l'appel solennel à prendre au sérieux. Ce sera notre conclusion. Alors, dans ce passage, le passage que Camissa a lu, l'évangéliste met en avant trois personnages. Alors, nous avons déjà insisté sur deux personnages, Jésus et Pierre, c'est évident. Mais il y en a un troisième, dont la présence est plus discrète, mais bien là, c'est Judas. Il ne parle pas, contrairement à Jésus et Pierre, mais il est bien présent. Verset 2 tout d'abord. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et puis versets 10 et 11 ensuite, lire ensemble, « Vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Pour finir donc, je vous propose de nous pencher sur l'attitude des deux disciples, alors que Jésus leur déclare qu'il peut faire, qu'il doit faire la purification de leur péché. Jésus donc déclare à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Alors en s'adressant à Pierre, Jésus en réalité s'adresse à tous les disciples, y compris Judas. La preuve, c'est que Jean nous rapporte cette conversation entre Pierre et Jésus. Alors nous avons déjà insisté sur la radicalité de cette déclaration. « Moi, Jésus, je suis le seul à pouvoir opérer cette purification et à rétablir ainsi entre Dieu et les hommes la communion. » Alors Judas, nous le savons, Judas n'a pas cru Jésus. Il n'a pas reconnu en Jésus celui qui pouvait faire la purification de ses péchés pour l'introduire dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Judas n'est pas pur. Jésus le lui rappelle au verset 10. Vous n'êtes pas tous purs. Ce rappel peut être interprété comme un dernier rappel que Jésus adresse à Judas. Tu n'es pas pur, Judas, et là, devant toi, sache-le, se tient celui et celui-là seul qui peut t'en rendre pur. Que décides-tu? Judas donc repousse l'appel de Jésus. Il ne reconnaît pas en ce maître qu'il a suivi 3 années celui qui peut le purifier et le rétablir dans la présence de Dieu. Alors, quelques versets plus loin, Jean écrit que Judas, ayant pris le morceau de pain que lui avait tendu Jésus, Judas sortit et il faisait nuit. C'est le verset 30. Judas sortit et il faisait nuit. Judas, en refusant la purification offerte par Jésus, est à présent et de manière définitive séparé de Dieu. Il s'enfonce dans la nuit noire pour accomplir sa mission criminelle. Il est en réalité déjà mort. Refuser la purification, c'est un bon moment. C'est connaître la mort. Alors finissons sur une note plus heureuse, Pierre à présent. Ce pauvre Pierre, il faut bien reconnaître que les évangélistes ne l'ont pas toujours épargné, légitimement, impulsif, incapable du meilleur comme du pire. Eh bien, ce matin, Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous laisse le meilleur. Il nous laisse un bel exemple. Pierre, c'est évident, est loin de comprendre tout ce que Jésus veut lui dire. Mais il a compris au moins une chose, certainement la plus importante, c'est que communion avec Jésus est de loin ce que nous avons de plus précieux. La communion avec Jésus est de loin ce que nous avons de plus précieux. Après lui avoir déclaré que s'il ne le lavait pas, Pierre n'aurait aucune part avec lui, l'apôtre a cette exclamation émouvante, salutaire, glorieuse. Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Parce que Pierre a fait confiance à Jésus, parce qu'il a eu foi en lui, Pierre a été purifié par Jésus. Alors, la question que l'on s'était posée en introduction était la suivante. Quelle est pour moi l'importance de la croix? Nous voyons à la lecture de ce passage que la réponse qu'on y apporte est capitale. Est-elle nécessaire? Est-elle suffisante pour me rétablir dans la présence de Dieu? Ou bien est-elle accessoire? Est-elle inefficace pour me rétablir dans cette présence? Est-ce que je crois à Jésus quand il me dit qu'il peut faire la purification de mes péchés et me rétablir dans la communion avec lui? Ou est-ce que je n'en crois pas? Les conséquences pour nous de la réponse que nous donnerons sont incalculables. La nuit pour toujours, c'est Judas. Ou la communion avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La vie en abondance, c'est Pierre. Et pour nous, qui avons reconnu par sa grâce, en Jésus, celui qui peut nous purifier de nos péchés, sommes-nous toujours aussi dépendants de la croix? Y revenons-nous constamment après avoir chuté? Ou bien, nous en sommes-nous petit à petit éloignés? Que le Seigneur, aux uns et aux autres, que le Seigneur nous souffle ce qu'il a soufflé à Pierre, alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Amen. Amen.